Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie, de la finance. Nous commençons notre point sur la semaine écoulée avec l'Arabie Saoudite qui a décidé d'augmenter ses prix de vente du pétrole brut. Ceci à compter du mois de juillet. Il a été fixé à 110,20 $ le baril. C'est une augmentation de 1,65 $. C'est tout de même une augmentation qui est assez forte, qui est due à la demande mondiale ainsi qu'aux tensions géopolitiques qui sont tout à fait croissantes. Les Émirats Arabes Unis ont annoncé un nouveau plan de développement économique qui a été baptisé Centennial 2071. Ça vise à faire des Émirats l'une des économies les plus diversifiées et les plus compétitives du monde à compter de 2071. Dans le monde, la Fed, la banque centrale américaine, la réserve centrale, a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt. On est toujours dans cette logique de taux d'intérêt toujours plus haut. Ceci pour essayer de contenir l'inflation qui a atteint 8,6% au mois de mai. C'est beaucoup aux États-Unis, dans un pays notamment où on est très regardant au niveau des couches les moins favorisées concernant à la fois les prix de l'alimentation et surtout les prix de l'énergie. Quand on sait ce que sont les distances là-bas, il est absolument essentiel de pouvoir se véhiculer et de ne pas dépenser trop d'argent. Et puis l'Union européenne a décidé d'adopter un plan de relance économique qui a été adopté. Là, on est sur des sommes qui sont tout à fait conséquentes, hein, à hauteur de 750 milliards d'euros. L'objectif vise à faire en sorte que les pays puissent tourner le dos à la fois à la crise de la Covid-19, à la crise ukrainienne et qu'il y ait vraiment un redémarrage de cette économie européenne. On revient avec le Maroc sur les imports-exports. On a eu des chiffres tout à fait intéressants cette semaine, à la fois sur la balance commerciale entre le Royaume du Maroc et l'Espagne et puis également avec les Émirats Arabes Unis. Nous allons en parler avec le professeur Abdelatif Komat, professeur d'économie que l'on connaît bien sur Economia. D'abord, merci beaucoup d'être là, d'être toujours là avec nous dans Economia. Un vrai plaisir de vous accueillir, Abdelatif Komat. On commence peut-être avec l'Espagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne très bien entre Rabat et Madrid.
Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est à l'image des relations politiques qui sont excellentes. Et bien sûr, il y a l'engouement économique qui suit son chemin depuis plusieurs années, mais avec une accélération, surtout ces 3-4 dernières années. Bien sûr, l'Espagne est confirmée dans son rang qu'il occupe depuis plusieurs années comme le premier partenaire commercial du Maroc. Et puis, nous avons constaté quand même une augmentation à deux chiffres des échanges commerciaux. Alors, bien sûr, on a noté avec satisfaction que 2024 commence très bien pour le Maroc parce que autant peut-être des dernières années, il y avait une tendance à une augmentation plutôt des importations du Maroc, d'Espagne beaucoup plus que des exportations. Mais ce que nous avons relevé, c'est un renversement de tendance, c'est que début 2024, le Maroc exporte davantage. Et bien sûr, cela est une bonne nouvelle parce qu'il permet d'atténuer le déséquilibre de la balance commerciale. Vous savez qu'il est en faveur de l'Espagne, pas d'une manière très flagrante parce que c'est pratiquement aux alentours de 80% de couverture des importations par les exportations. Mais ces chiffres-là ont tendance à améliorer le taux de couverture pour le Maroc.
Mais comment peut-on s'expliquer? C'est sûr qu'il y a les relations politiques, ça compte, on est bien d'accord. Mais le monde entrepreneurial, il reste sujet au marché, aux lois du marché, les comptes sociétés. Exporter, ça coûte un petit peu d'argent quand même parce qu'il faut aller dans l'autre pays, il faut ouvrir, il faut envoyer des gens qui aillent travailler à l'étranger. Ce ne sont pas des processus économiques qui sont simples à mettre en place. Comment se fait-il que ça fonctionne plutôt bien? Parce que ce sont des enjeux pour les entreprises qui sont impliquées dans ces relations économiques.
Mais justement, c'est une réaction objective d'un certain nombre d'avantages qui sont en faveur justement des opérateurs économiques. Ce n'est qu'une situation normale, étant donné plusieurs facteurs. Tout d'abord, bien sûr, il y a le facteur historique, il y a le facteur géographique. Vous savez que vous avez évoqué la dimension économique. Bien sûr, le volet coût et le volet logistique est très important. En fait, la frontière entre les deux pays, c'est 14 kilomètres, et donc tout ce qui est mouvements commerciaux, est à l'avantage des deux pays en termes de coûts. Alors bien sûr, il y a tout le dispositif qui est mis en place pour encourager les relations entre les deux pays, avec des chambres de commerce très dynamiques, avec une proximité au niveau des relations entre en fait, des hommes ou des chefs d'entreprise. Vous savez qu'il y a fréquemment des visites croisées. Tout cela rapproche les esprits sur le plan d'investissement, sur le plan des échanges. Et je dirais que même en le prenant sous l'angle purement de rentabilité et d'intérêt économique, ce n'est qu'une situation normale étant donné tous les avantages que tireraient les deux pays, les opérateurs économiques à travers ces échanges.
Mais qu'est-ce que le Maroc a joué sur le long terme? C'est-à-dire, si on se projette sur une réflexion aller à l'horizon 5 ans, 10 ans, quels sont les points forts sur lesquels le Maroc peut compter pour continuer à avoir ses échanges commerciaux avec l'Espagne?
En fait, le Maroc, tout d'abord, bien sûr, il y a le positionnement sur des secteurs stratégiques. Vous savez que le Maroc, depuis quelques années, il transforme même la structure de ses exportations. Ce n'est plus un pays qui exporte exclusivement ou principalement des matières premières non traitées ou des produits basés sur une main-d'œuvre non qualifiée. Aujourd'hui, le Maroc exporte des produits industriels, des produits transformés. Donc déjà, à cette étape-là, on sent cette métamorphose au niveau de la structure des exportations du Maroc d'une manière générale. Alors bien sûr, ça c'est jusqu'à aujourd'hui, mais l'avenir il est encore plus prometteur parce qu'il s'agit de se positionner davantage sur des secteurs, je dirais, de l'avenir. Aujourd'hui, le Maroc il est dans les énergies renouvelables, il est dans la fintech, il est dans l'agriculture basée sur la technologie, il est sur tout ce qui est économie verte. Tout cela, ce sont des secteurs qui intéressent bien sûr l'Espagne en termes d'investissement, parce que l'Espagne également a des objectifs stratégiques, mais tout cela n'enlève rien, en fait, la coopération sur des secteurs classiques. Vous savez que le Maroc est un grand exportateur de tout ce qui est vêtements confectionnés, de tout ce qui est produits halieutiques, et puis également de plus en plus des produits transformés industriels, notamment tout ce qui est câblage électrique. Donc tout cela va rester de mise, mais en même temps, on se projette sur des secteurs de l'avenir.
Mais juste, alors, question naïve, mais là on parle bien du Maroc et de l'Espagne, et cela, est-ce qu'il faut ou pas? Encore une fois, c'est une question même technique. Est-ce que dans la perception que l'on, la lecture que l'on a, faut se dire, voilà, Maroc-Espagne, est-ce qu'il faut le désarimer, le décorréler de la relation Maroc-Union européenne, ou est-ce qu'il y a des coursives, il y a des coursives, en tout cas des liens qui peuvent exister entre l'Espagne et l'Union européenne? Voyez-vous, est-ce que ce sont deux dossiers distincts ou est-ce qu'on peut travailler une réflexion qui les englobe tous?
En fait, moi je crois ils sont pas distincts, ils sont complémentaires. D'accord, il y a des relations bilatérales. D'ailleurs, c'est ce que entretient le Maroc avec ses partenaires européens, c'est qu'il y a toujours des relations bilatérales. Vous savez que les premiers, les plus grands partenaires commerciaux, économiques et investissements du Maroc, ce sont des pays européens. On a bien sûr l'Espagne, on a la France, on a l'Italie, on a l'Allemagne, etc. Ce sont les partenaires ou les principaux partenaires du Maroc. Donc ça, ce sont des relations bilatérales. Mais en même temps, le Maroc traite avec ces pays dans le cadre justement de leur appartenance à l'Union européenne. Donc il y a des règles sur le plan commercial, il y a un certain nombre de dispositifs, que ce soit réglementaires, qui régissent ces relations. Et donc je dirais, c'est complémentaire. Alors bien sûr, avec l'Espagne, c'est un peu particulier parce qu'il y a cette proximité géographique qui est très importante. Il y a la forte présence de la communauté marocaine en Espagne. Et puis, il y a aujourd'hui des projets stratégiques qui lient au-delà des projets économiques. Il y a également d'organiser l'organisation conjointe de la Coupe du Monde.
Oui, ça va aider.
Vous savez que bien sûr que le chef du gouvernement espagnol a donné des chiffres de 50 milliards d'euros qui sont des projets d'investissement de l'Espagne au Maroc à l'horizon 2050. Donc il y a en fait une vision, pas seulement sur le court terme ou le moyen terme, mais même long terme. C'est pour cela qu'on qualifie cette relation d'une relation de partenariat stratégique à haut niveau. Et bien sûr, cela n'enlève rien le fait que le Maroc, lorsqu'il traite avec l'Espagne, il traite également avec l'Espagne comme faisant partie de l'Union européenne.
Mais c'est intéressant, vous disiez le fait qu'il y ait des Marocains qui résident en Espagne, c'est dans quelle mesure cela, cette présence humaine, entrepreneuriale, de compétences, d'hommes, de femmes, etc., dans quelle mesure cela contribue à la bonne santé économique des relations entre les deux pays ?
Alors bien sûr, il y a la dimension humaine, la dimension culturelle qui sont fondamentales dans les relations économiques, bien sûr. Et puis il y a les échanges d'expériences. Vous savez que de plus en plus, il y a des Marocains résidant en Espagne qui viennent investir au Maroc et vice-versa. Et bien sûr, d'ailleurs, les deux plus grands partenaires commerciaux et économiques du Maroc, qui sont l'Espagne et la France, ce sont les pays dans lesquels existe la communauté marocaine la plus importante. Et donc forcément, la dimension sociale, la dimension humaine, et puis l'expérience, l'expertise et les compétences font jouer justement un rôle très très important au renforcement de ces relations.
D'accord. On va se tourner maintenant vers une autre partie de la planète Terre, ce sont les Émirats Arabes Unis. On a appris ces derniers jours que ces Émirats sont le principal investisseur arabe dans le royaume du Maroc. Alors, est-ce qu'il faut s'en étonner ? Est-ce qu'il faut s'en surprendre ? Est-ce que c'est dans la norme, enfin, on va dire dans l'histoire assez particulière aussi, hein, qui existe entre le Maroc et les Émirats ? Quelle a été votre analyse en découvrant ces dernières données chiffrées qui nous ont été transmises ?
En fait, c'est pas du tout étonnant parce que c'est dans la lignée, des relations excellentes et exceptionnelles
anciennes.
Existent entre les très anciennes, très ancrées. Entre les deux pays, entre les monarchies, entre les gouvernants. Donc ça, c'est sur le plan politique que les relations sont excellentes. Vous savez que la position des Émirats Arabes Unis par rapport à l'intégrité territoriale du Maroc. Donc sur ces aspects-là, je dirais que ce sont des relations exceptionnelles. Maintenant, sur le plan économique, en fait, ce sont des relations qui étaient très, très fortes depuis toujours, mais ils ont tendance à s'exceller ces dernières années, parce qu'on voit les chiffres en termes d'augmentation des échanges qui évoluent en deux chiffres. Et puis, bien sûr, il y a l'étape qui est la visite de Sa Majesté, qu'il a effectuée le 4 décembre 2023, qui était en fait une visite, je dirais, de très très haut niveau, qui a été appréciée, qui a été suivie à travers le monde, parce qu'il y avait en fait la qualité de l'accueil, et ça exprime tout d'abord l'excellence des relations entre les deux pays, mais surtout la vision pour l'avenir. Et là, on a vu la signature de conventions qui portent sur différents secteurs.
Excusez-moi, je coupe la parole, mais c'est intéressant de voir ces secteurs économiques, parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, les situations sont différentes. L'Espagne et le Maroc, la proximité géographique, tout le monde la connaît, elle est vraiment, ça se joue à quelques kilomètres. C'est vrai que les Émirats et le Maroc, ce ne sont pas des pays qui sont proches l'un de l'autre. Alors que de quoi se nourrissent, comment vivent les relations économiques entre ces deux États qui sont quand même très éloignés l'un de l'autre ? Ça se passe comment ? Racontez-nous.
Alors, tout d'abord, il y a la dimension investissement. Au-delà des échanges commerciaux, l'investissement est un facteur de coopération de premier niveau. Vous savez que les Émirats Arabes Unis, ils sont parmi les plus importants investisseurs au niveau mondial. Et d'ailleurs, il situe le Maroc parmi ses partenaires les plus importants en termes d'investissement, juste après les États-Unis, l'Égypte, le Royaume-Uni et l'Inde. Et donc, c'est pratiquement 30 milliards de dollars d'investissement au Maroc. Donc, c'est un vecteur, je dirais, de renforcement des relations. Vous savez que les Émirats Arabes Unis ont toujours été un grand investisseur au Maroc, mais ils le seront encore davantage dans l'avenir parce qu'ils vont s'animer au Maroc par rapport à la stratégie de notre pays qui cadre avec la stratégie également des Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, les deux pays sont situés sur des secteurs, notamment de tout ce qui est développement durable, tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est sécurité alimentaire, donc tout ce qui est tourisme. Donc il y a plusieurs secteurs d'avenir qui lient les deux pays. Et donc nous sommes en train d'assister à une transformation de la structuration de l'investissement des Émirats arabes unis au Maroc, qui était beaucoup plus dans l'immobilier, dans le tourisme, dans l'infrastructure. Dorénavant, ils vont rester sur ce secteur parce qu'ils vont accompagner en fait, l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde, mais en oui. même temps, ils vont davantage être présents dans des secteurs d'avenir, tout ce qui est économie numérique, tout ce qui est développement durable. Et sur ce secteur-là, vous savez que le Maroc a des stratégies jusqu'à l'horizon 2050.
D'accord.
Donc il y a plusieurs paramètres qui font que il y a des éléments objectifs qui font que les Émirats arabes unis sont très présents aussi bien au niveau des échanges commerciaux qu'au niveau de l'investissement.
Mais est-ce que les Émirats, alors effectivement, c'est un pays, mais c'est aussi une communauté de pays, hein, les États du Golfe, ça fonctionne bien ? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut se dire, quand on est aux Émirats, bon, pour le coup, il y a une proximité géographique avec l'Arabie Saoudite, on sait aussi que les relations sont bonnes hein, entre le Maroc et l'Arabie Saoudite. Je veux dire, le fait de travailler avec les Émirats, à quoi ça permet de bénéficier d'un ancrage dans la sous-région. On peut raisonner comme ça ?
En fait, moi, je crois qu'il y a les relations avec la communauté des pays du Golfe, mais il y a les relations bilatérales.
D'accord.
Et il se trouve que pratiquement avec tous les pays du Golfe, le Maroc a d'excellentes relations. Vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats. Donc, il y a des relations bilatérales qui sont tout d'abord politiques, mais également économiques, parce qu'il y a une montée des échanges commerciaux et de l'investissement avec tous ces pays-là. Et bien sûr, il y a également la concertation dans un cadre multilatéral, qui est le Conseil des pays du Golfe, avec lequel le Maroc a une très bonne relation. Et donc, moi, je crois que, comme le cas de l'Union européenne, les relations bilatérales n'excluent pas la relation multilatérale.
Bien sûr, bien sûr.
Au contraire, le Maroc respecte les institutions et donc il traite avec les pays chacun à part, mais il traite avec leur organisation lorsqu'il s'agit de questions institutionnelles sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Et donc, je crois que sur ce plan-là, la diplomatie marocaine, aussi bien politique qu'économique, elle est avérée comme une diplomatie respectueuse des règles et des institutions. Et je crois le Maroc, en fait, ces pays lui rendent en fait la balle parce que le Maroc aujourd'hui est un pays très respecté de par l'image, de par la personnalité de sa diplomatie, qui est aujourd'hui respectueuse des règles, mais également respectée partout.
Alors, donc on voit, il n'y a pas que l'Espagne et les Émirats, bien évidemment, mais on voit que, par exemple, là, on a deux pôles d'import-export qui fonctionnent bien, vous nous les avez décrits. Ce sur quoi le Maroc devrait travailler pour travailler à plus de dynamisme, plus d'innovation, plus d'investissement. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire au Maroc, à l'intérieur même des frontières du Royaume, pour accompagner ces chiffres qui sont bons et que vous nous avez rappelés et analysés ? Sur quoi il faut travailler aujourd'hui dans le Royaume ?
Alors, en fait, il y a tout d'abord la géostratégie. La géostratégie est très importante dans les relations, en fait, mondiales, internationales aujourd'hui, et le Maroc avec les initiatives royales. Tout d'abord, bien sûr, la façade atlantique de l'Afrique, mais il ne s'agit pas que de la façade atlantique de l'Afrique, il y a l'initiative atlantique parce qu'il s'agit de se relier davantage à l'Amérique latine, à l'Amérique du Nord. Et donc ça, c'est très très important aujourd'hui en termes de relations, en termes de relations économiques. La dimension géostratégique est fondamentale. Et je crois que sur ce plan-là, le Maroc a une vision. Tout d'abord, en termes d'équilibre de ses relations avec les différents pôles politiques et économiques au niveau mondial, et puis des initiatives comme le décloisonnement du pays du Sahel, comme l'initiative atlantique. Ça, c'est très important.
Ouais.
Alors bien sûr, il y a un travail à faire en interne. Bon, tout d'abord, le côté infrastructure, très très important. Vous savez que le Maroc aujourd'hui développe une infrastructure de connexion de haut niveau, aussi bien au nord qu'au sud du Maroc, avec le West Nador qui est en train de s'ouvrir dans les prochaines semaines, avec le projet de Dakhla Atlantique qui est avancé, et bien sûr on ne parle pas de Tangier Med, avec tout ce qui se fait en termes de ferroviaire, en termes autoroutiers, pour justement relier le Maroc à son prolongement africain. Ça, c'est également le deuxième volet très important.
Mmh.
Et bien sûr, il y a tout le volet, je dirais, de dispositions administratives. On parle de la charte de l'investissement, de la simplification des procédures. Et donc là également, des accords de libre-échange. Vous savez que le Maroc, à un certain moment, peut-être, on critiquait un peu cette ouverture à travers les accords de libre-échange, mais aujourd'hui, c'est un avantage en la faveur du Maroc parce que c'est ce que permet aux grands pôles économiques de faire du Maroc une plateforme pour s'ouvrir d'autres marchés. Aujourd'hui, pratiquement le Maroc est un des pays les plus ouverts à travers les accords de libre-échange, avec pratiquement 55 pays qui sont dans le cadre de ces accords. Alors tout cela, bien sûr, il s'agit de le fructifier, de le développer davantage, mais je crois que le cadre, l'écosystème, il est prêt, d'autant plus qu'il y a un positionnement encore plus renforcé sur les secteurs futuristes qui concernent l'Afrique. On parle de développement durable, on parle des énergies renouvelables. Donc, sur les engrais,
oui,
le phosphate avec sa stratégie de produire des engrais adaptés aux terres agricoles africaines. Et donc, tout cela, je dirais, tout cela réuni fait qu'aujourd'hui, il y a une stratégie, il y a un certain nombre de mesures qui nous laisserait, convaincus que ces chiffres que vous avez évoqués en termes de croissance des exportations, et d'ailleurs, même le taux de croissance du premier trimestre 2024, aujourd'hui, il dépasse les 4,1%.
Oui, il est bon.
C'est un des taux le plus élevé ces dernières années. Mmh. Si on reste avec les prochains trimestres sur ce taux-là, peut-être on va terminer l'année 2024 avec un taux de croissance supérieur à ce qui a été annoncé.
Mmh.
Et puis, l'avenir, il est plus prometteur, parce que ce que nous sommes en train de récolter comme intention d'investissement, c'est en milliards de dollars sur des secteurs porteurs. Peut-être que, si on continue de faire cette voie-là, l'avenir pourrait être prometteur pour la jeunesse marocaine.
Une toute dernière question concernant justement les investissements étrangers. Est-ce qu'il faut s'habituer à l'idée que ces investissements, ces milliards de dollars que vous évoquez, concernent finalement les industries majeures, les grosses sociétés, les grosses entreprises, en se disant, bon, finalement, voilà, les PME, les toutes petites entreprises sont à l'écart de ces investissements, et c'est pas grave, on s'en satisfait. Pourquoi pas, hein ? J'ai pas de doctrine, oui, je vous en prie.
Oui, allez-y.
Non, je vous en prie. C'est voilà, est-ce qu'il faut acter
c'est
le fait
juste
que...
Pour dire que finalement, ce décloisonnement, décloisonnement entre les grandes entreprises
et les
petites entreprises est un faux raisonnement. Pourquoi ?
D'accord.
Parce que, en fait, les grandes entreprises créent des marchés pour les petites entreprises. C'est dans la dynamique des grandes entreprises qu'on crée de l'activité pour les petites entreprises. Il ne faut pas voir que si on développe les grandes entreprises au détriment des petites entreprises. Maintenant, c'est vrai, l'investissement étranger, lorsqu'il est mobilisé, sur des grands projets. Mais autour de ces grands projets, vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de l'industrie automobile au Maroc.
Bien sûr.
Avec l'écosystème Renault-Peugeot, aujourd'hui, c'est plus de 200 entreprises qui, certes, ne sont pas tous des petites PME, mais ils sont des petites entreprises dans leur majorité qui sont dans le sillage des grandes entreprises. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Vous savez que même les pays les plus avancés, lorsqu'on voit la structuration de leur économie, il y a essentiellement de TPME et de PME, beaucoup plus que de grandes entreprises. Mais les TPME et les PME vivent justement de la dynamique qui est créée autour d'elles par les grandes entreprises. Et donc moi, je ne vois pas que le fait aujourd'hui qu'il y ait un investissement étranger qui touche les grands projets, c'est peut-être au détriment, à la défaveur des TPME ou des PME. Au contraire, il va leur permettre peut-être un écosystème dans lequel ils pourront se créer davantage et s'épanouir davantage.
Et on va finalement une toute petite question, mais on sait que tous les jeunes qui nous écoutent sont souvent avides de questions sur l'emploi, qui est vraiment un secteur crucial et essentiel, on peut vraiment le comprendre. Dans quelle mesure tout ce dont nous avons parlé, Abdelatif Komat, dans quelle mesure cela peut-il contribuer à créer à la fois de l'emploi, mais aussi de nouvelles opportunités d'emploi sur de nouveaux métiers ? Est-ce que c'est favorable ou pas pour la création d'emplois dans le royaume ?
Alors l'investissement, il est toujours favorable à la création d'emplois, mais avec une donne qui a changé, c'est que l'investissement crée moins d'emplois. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur des investissements capitalistiques, nous sommes sur des investissements basés sur la haute technologie, et bien sûr avec le même montant d'investissement, on crée moins d'emplois qu'il y a 20 ans. Vous savez qu'un point de taux de croissance au Maroc qui créait 30 à 35 000 au poste d'emploi pour un point de taux de croissance aujourd'hui, elle crée entre 15 000 et 20 000. Donc, mais il faut souligner deux choses. Tout d'abord, la qualité de l'emploi. C'est des emplois décents, c'est des emplois hautement qualifiés. Et donc, ça, c'est à la faveur de jeunes diplômés. Vous savez que le Maroc, aujourd'hui, regorge de compétences. Et donc, il y a des possibilités pour des ingénieurs, pour des managers, pour des hautes compétences. Ça, c'est très important. Et bien évidemment, il faut également aller vers plus de transformation de la structuration de notre économie qui peut être... le fait de ne pas créer d'une manière, je dirais, directe beaucoup d'emplois, il s'agit de transformer la nature de notre emploi.
D'accord, c'est intéressant.
Ce qu'ont vécu les pays les plus avancés. Vous savez que lorsqu'on a évoqué le robotisme et disant qu'il allait tuer l'emploi dans des pays robotisés comme le Japon, comme l'Allemagne, ce sont les pays où il y a moins de chômage parce qu'ils ont transformé leur main-d'œuvre qui est allée vers de nouveaux secteurs, vers de nouveaux métiers. Le Maroc aujourd'hui regorge de potentialités dans tout ce qui est développement informatique, dans tout ce qui est réseautage, dans tout ce qui est en fait les nouveaux métiers, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient... Donc il y a beaucoup de potentialités. Ce qu'il s'agit, c'est de transformer les compétences de manière à ce que tout d'abord ils créent des entreprises, et ça c'est très important. Nous avons un taux de création ou d'entrepreneuriat relativement faible. Il faut créer plus d'entreprises, mais également il faut transformer la jeunesse pour qu'elles aillent vers les métiers de l'avenir.
Merci pour ces explications, Abdellatif Komat. On va rester au Maroc pour évoquer ce projet de recensement de la population, opération qui se déroule tous les 10 ans. C'est un point tout à fait important. Le roi Mohamed VI a donné ses directives pour que cela se déroule au mieux dans une lettre qui a été adressée au chef du gouvernement. Ali Larichi, directeur pédagogique à l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'université de Mundiapolis à Casablanca. Il nous explique l'aspect, au-delà du défi que cela représente, de pouvoir organiser un recensement. Écoutez son explication sur les enjeux, somme toute, économiques d'un tel recensement.
Un recensement, il a toujours une importance cruciale pour n'importe quel État. Pour le Maroc, d'abord... Le Maroc le fait depuis 1960, donc depuis l'indépendance, et c'est toujours tous les 10 ans. Donc là, on est après celui de 2014, donc on est à 10 ans du 16e recensement, ça va être le 7e. Il est important aussi parce que le Maroc il est en train de réaliser le grand chantier royal, celui de la protection sociale, celui de l'État social. Donc un recensement ne peut être que très très bénéfique au vu des indicateurs et des informations qui vont être générées et qui vont permettre d'avoir des indicateurs sur l'ensemble des besoins de la population. Donc voilà l'importance de ces besoins-là pour aussi donc être appliqués au niveau du chantier de l'État social.
Merci Ali Larichi pour ces explications. On se retrouve bientôt, même la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Economia. Prenez soin de vous. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.